Bonsoir à tous. Bonsoir, Christophe Onosibio.
Bonsoir.
On est ravis de vous accueillir ce soir pour la venue de ce sixième roman qui s'intitule « Croire au merveilleux ». Un titre plein de promesses, un titre qui intrigue et qui surtout fait suite à « Plongée », paru en 2013, qui avait reçu d'ailleurs le Grand Prix de l'Académie française et le Renaudot des lycéens. Alors on retrouve des personnages, notamment César, qui est un jeune veuf désemparé depuis la mort de sa femme, son petit garçon Hector, qui maintenant a 6 ans. Donc le père a vieilli, le fils a grandi, le père a vieilli mais il s'est patiné aussi, pour reprendre votre expression. Seulement 2 ans après cette tragédie, la douleur est aussi vive.
Oui. Bonsoir, merci d'être là en ce jour important. On va parler de littérature, pas de politique, ça nous changera. On a un peu besoin de merveilleux en ce moment. Oui, c'est ça, c'est, on peut le voir comme une suite à Plongée. Pour moi, c'est un livre qui a son unité, mais évidemment, César partage ma vie, si je peux dire, depuis mon premier roman, depuis Désagrégé, qui était paru en 2000. Et j'aime bien avoir ce personnage que je suis, qui me suit, on se connaît un petit peu. C'est pas moi, mais c'est une sorte de surface sur laquelle je peux projeter un certain nombre d'expériences vécues, mais en même temps, c'est un roman. Et j'avais envie, oui, de retrouver César après la douleur de Plongée, avec ce petit garçon, voir comment le petit garçon avait grandi et comment César serait capable d'affronter avec lui la douleur et l'envie de devenir vraiment un père, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début du livre, il est fracassé, calciné. C'est quelqu'un qui est mort à tous les désirs, pratiquement. Et même la possibilité d'avoir ce petit garçon devant lui et de répondre à l'amour de ce petit garçon est très, très compliqué pour lui. Et donc, j'avais envie à la fois de les retrouver, de voir comment ils allaient se débrouiller, voir aussi comment une sorte de nouveau couple allait se créer entre César et ce petit garçon. Et j'ai adoré écrire d'ailleurs les passages où enfin César réussit à devenir un père et réussit à donner de l'amour à cet enfant. Et j'avais envie de sauver César, qui était évidemment tout seul, enfin qui avait perdu l'amour de sa vie à la fin de Plongée. Et j'avais envie de l'amener du côté de l'ombre, le ramener du côté de la lumière, en fait, à partir de ce côté de la mort vers la vie. Et d'essayer d'écrire avec « Croire au merveilleux », et le titre le dit, on en parlera peut-être, la possibilité aussi, lui donner la possibilité de vivre, de revivre, et de faire la paix avec Paz, en fait, puisqu'il est très, évidemment, il est dans la culpabilité au départ. Il cherche une réponse qu'il n'a pas. Et donc, je voulais l'aider. Donc, ça m'amusait, ça m'intéressait beaucoup. On a du mal, toujours, à quitter ces personnages. Et c'est vrai que lui, il compte beaucoup, et Paz comptait beaucoup. Je voulais la retrouver aussi, je voulais la décrire à nouveau. Et puis inventer d'autres personnages.
Oui, parce qu'au début du roman, c'est un père qui n'arrive plus à l'être. Il y a cette question de transmission qui est très importante, puisque c'est une valeur intrinsèque à la paternité, à la maternité.
Oui, puis aujourd'hui, en fait, c'est vraiment une problématique, un vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire que la transmission, on est confronté quand même à des générations ou un état d'esprit global qui nous dit ou qui nous intime l'ordre de penser que tout se crée de façon instantanée. Et moi, je crois beaucoup à la transmission entre les générations et à ce qu'on laisse aussi à ceux qui viendront après et à ce que nous ont laissé aussi ceux qui sont venus avant. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus d'histoire, que tout est éphémère, instantané. Voilà, donc l'enjeu de la transmission, plus d'un père à son enfant, était vraiment, vraiment essentiel. Enfin, je pense qu'on est père à partir du moment aussi où on est capable d'être, je ne vais pas parler de fierté, mais en tout cas d'oser transmettre ce dont on pense que c'est essentiel pour ceux qui viendront après, pour les aider à vivre, en fait. Ouais.
Même s'il y a des choses aussi qui font partie, malheureusement, de notre époque, puisque on va retrouver les attentats qui sont mentionnés à plusieurs reprises, le terrorisme, parce que c'est un petit garçon qui se pose beaucoup de questions par rapport à tout ça. Malheureusement, on doit faire avec ça, en tout cas, pouvoir expliquer. Mais c'est vrai qu'on a beau n'être que lecteur et pas juge, quand on tombe sur ce père qui se dit qui va abandonner son fils, on ne peut pas s'empêcher de lui en vouloir et de se dire mais comment il peut oser penser une chose pareille.
Bon, c'est quelqu'un qui... Alors moi, je savais qu'il n'allait pas le faire, parce que quand je... Comme, voilà. Voilà. Mais...
Oui, le doute est vite dissipé.
Voilà. Mais bon, c'est un être qui souffre. C'est lui qui raconte aussi. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il va être un poids pour cet enfant. Et d'ailleurs, au début, c'est même plutôt le petit garçon qui a l'air de veiller sur son père. C'est lui qui prend de ses nouvelles, qui essaie d'être là...
Alors, c'est toujours le petit mot bienveillant ici.
Exactement. Quand il lui dit, parce que il lui dit que son papa est mal au cœur, alors il en parle à l'institutrice qui évidemment lui conseille un cardiologue pour l'aider. Toutes les mères de famille sont là aussi. Mais c'est vrai que moi je savais qu'il allait pas le faire, donc j'ai posé ça. C'est vrai que c'est choquant, mais bon, comme on lit ça au début et qu'on se dit que a priori il va pas mourir tout de suite puisqu'il reste encore 200 pages à lire. Mais c'est vrai qu'au départ, en écrivant ça, c'était compliqué, c'était pas facile. Mais c'est un être qui souffre, et quand on souffre, on fait aussi des bêtises, on fait aussi des choses qui sont pas effectivement qui ont tendance à sortir du champ d'expérience de la normalité. Lui, il pense qu'il va être un fardeau en fait. Et il voit le visage de ce petit garçon qui ressemble trait pour trait à sa mère, et comme il a pas fait son deuil en fait. Et tout le pari aussi du livre, c'est ça, c'est d'amener ce père et ce fils, je le disais tout à l'heure, du côté de la lumière, du côté aussi de la... Quand je disais faire la paix, de les arriver... Je vais pas raconter la fin du livre. Peut-être tout le monde ne l'a pas lu encore, mais c'était arriver à... Oui, c'est ce qu'on appelle peut-être faire son deuil, mais arriver à se souvenir de Paz, l'être aimé, comme quelqu'un qui est là, tout en n'étant plus là, mais qui est là, encore dans le souvenir, et avec laquelle il est possible de revivre. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je fasse intervenir aussi un autre personnage de femme, cette nana assez mystérieuse. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un être qui est, oui, dans un... il est suicidaire, donc il est... C'est pas rationnel, quoi. C'est, effectivement, oui. Tout devrait lui le pousser à s'occuper de cet enfant, mais il peut pas. Il peut pas.
Oui, puis il y a quelque chose de terrible, parce qu'on parle du deuil, de la perte, de la souffrance, mais il y a quand même quelque chose quand on perd quelqu'un physiquement, et c'est cette femme finalement qui lui échappe aussi psychologiquement, puisque il se pose cette question qui n'a pas de réponse, c'est-à-dire est-ce qu'elle les a abandonnés ou est-ce qu'elle comptait revenir ?
Oui, et d'ailleurs cette question-là, elle est pour beaucoup aussi dans le fait que j'ai voulu reprendre les personnages en dehors de toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est que beaucoup de lecteurs m'avaient posé la question à la fin de Plongée, puisque moi j'avais laissé, alors je connaissais la réponse, mais au fond je l'ai donnée dans ce livre-là. Est-ce que Paz allait revenir ou non ? Est-ce qu'elle avait fait une croix sur sur l'homme qu'elle aimait, puisqu'elle l'aime dans Plongée, on voit qu'elle l'aime, même si elle est parfois très dure avec lui, elle l'aime, et elle aime ce petit garçon aussi, même si elle l'a très peu connu. Et on me demandait ça, est-ce qu'elle va revenir, est-ce que c'était juste un break, comme on dit, ou est-ce qu'elle avait vraiment fait une croix sur eux. Et je me suis dit que si les lecteurs se la posaient, c'est peut-être que le personnage aussi se la posait. Donc j'ai voulu y répondre avec Croire au merveilleux. Et Paz, et effectivement, c'était la retrouver. Il fallait que Paz s'exprime d'une certaine façon pour aider, ou du moins que l'homme qui l'avait aimé pense qu'elle l'a pas oublié. Mais moi, j'avais la réponse d'ailleurs, et c'est aussi d'ailleurs ce dont il sera question dans le film Plongée qui est terminé, que j'ai vu.
Qui sera adapté à l'automne, hein, c'est
ça. Qui sortira en novembre. Oui. Voilà, sur cette question-là aussi, parce que c'est pareil, encore une fois, croire que Paz était partie définitivement, ça peut être très choquant. Pour moi, elle a toujours été là. Il se trouve que c'est un accident d'en plonger. Mais simplement, j'explicitais pas clairement le fait qu'elle allait revenir, que c'était juste une crise passagère. Donc il faut ça. Et cet être-là, César, au départ, il est totalement perdu, il est totalement sans repère. Alors, il l'abandonne pas totalement, puisque bon, de toute façon, il l'abandonne pas, mais il estime qu'il a tout réglé matériellement et qu'après tout, alors là, on rejoint la transmission, le personnage des parents de César, enfin les personnages des parents de César, donc les grands-parents de cet enfant, où j'ai beaucoup aussi aimé mettre en scène ce rapport, beaucoup téléphonique d'ailleurs, comme plein de familles aujourd'hui, et la relation qui est différente entre un grand-parent, des grands-parents et leur petit-fils, et le fils et son père, en fait. Et j'ai l'impression qu'on reste toujours... on est toujours... Enfin, quand on est, je sais pas, c'est peut-être mon cas personnel ou mes réflexions, mais qu'on est toujours à la fois un fils et un père, même quand on a des enfants, qu'on reste un fils, en fait, toute sa vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage dans la mythologie d'Hector, qui est, en fait, les deux, de façon très excellente, en fait, à la fois un père de famille formidable avec son propre enfant, et qui est un fils aussi, très, très respectueux envers son père. Et donc, j'aimais bien... Donc, il se dit, au fond, ce petit garçon, il va être... voilà, ils vont s'occuper, ils vont l'élever. Après tout, j'ai été bien élevé, donc il va être bien élevé. Voilà, simplement, il fait l'impasse sur ce rôle de père, mais il n'arrive pas à l'assumer. Et donc, il préfère presque sauver ce petit garçon en s'effaçant lui-même. Mais encore une fois, ce sont les premières pages du livre. Il était essentiel pour moi de montrer en quelques pages comment César était, pour justement le faire rebondir et l'emmener justement du côté de la lumière, du côté de la Renaissance, du côté de l'Italie, du côté des histoires, du côté des vagues, et du côté même de la chevelure de son petit garçon quand il passe la main, quand il le regarde. C'est quelqu'un qui réapprend à regarder, qui réapprend à désirer le monde, qui réapprend à danser ou à sortir, à voyager, à parler, à désirer aussi, peut-être d'une certaine façon, la relation avec Nana. Je voulais pas que ça soit... Parce que je voulais pas tromper Paz. C'était important, c'était curieusement. Je voulais pas que ça soit une relation d'amour qui se substitue à celle de Paz. C'est pas quelqu'un qui est en état d'amour.
Oui, ça n'aurait pas été, voilà. De toute façon.
Donc je voulais travailler sur une relation de grande complicité. Encore une fois, quand on parlait de merveilleux ou du contexte difficile dans lequel on vit... c'est aussi de montrer à travers Nana quelqu'un d'extrêmement bienveillant, à l'écoute, à la fois vif dans la vie, mais très à l'écoute. D'ailleurs, c'est très curieux parce que on a l'impression qu'elle en sait beaucoup sur César.
Elle le connaît même très bien.
Qu'elle le connaît très bien, qu'elle connaît ses goûts. Et peu à peu, on va de plus en plus s'interroger. Mais le merveilleux, c'est ça aussi, c'est que dans une époque chaotique comme la nôtre, dans une époque difficile, vous parliez des attentats, mais ils sont en fond, en fait. Ils sont très très peu. Ils sont là sans être là parce qu'ils font partie du monde. Mais ma conviction, c'est que, comme les personnages de ce roman, il faut arriver à vivre avec ça, mais sans faire l'économie et sans se couper du plaisir des histoires qu'on transmet, des souvenirs qu'on a, qu'on reconvoque, de la grande sensualité de certains paysages, de certaines peaux. Et encore une fois, je ne parle pas que d'amour ou que de femme. Quand il regarde son fils nager dans le soleil...
Ouais, c'est très émouvant,
voilà.
Ce passage.
C'est-à-dire, le merveilleux, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on nous vole ça. Même si le monde est dur et il faut combattre et il faut être vigilant de plus en plus. C'est pour ça que les librairies, les lecteurs, les écrivains, les créateurs sont très, très importants parce que il n'y a pas uniquement les fils d'infos... que ça soit les réseaux sociaux ou même la presse écrite et les chaînes de télévision et les infos en boucle. Il y a aussi toute une part du monde qui reste encore merveilleuse et à laquelle il faut tenir vraiment précieusement. Et le message de Nana, c'est ça. C'est de dire, voilà, t'as un enfant, t'as un fils, t'as des choses en toi. Il y a un monde, il y a des paysages, il y a des gens, il y a des vies autour de toi. Eh bien, il y a aussi ça dont il faut prendre compte, malgré justement ce contexte chaotique géopolitique, malgré ta souffrance à toi. Et il y a ce passage qui le libère pratiquement, où elle lui dit en substance, au fond, si Paz te regardait, elle serait d'accord avec moi. Elle penserait que ton rôle aussi, c'est peut-être de s'occuper de cet enfant. Mais simplement, il doute même de l'amour qu'il peut donner. Mais ça, c'est très humain, au fond. C'est pas facile et dans le couple et avec un enfant, c'est pas facile.
Et encore moins tout seul parce qu'il s'est complètement fermé au monde.
Exactement. C'est pas facile de vivre et encore moins de revivre. Et pourtant, il va le faire.
Donc, il va être sauvé plusieurs fois quand même, ce César, et notamment par Nana, puisque c'est son prénom, qui a une maturité incroyable.
Oui.
qui a une vingtaine d'années à peine, qui est belle comme le jour, qui s'intéresse à plein de choses, étudiante en architecture.
Très sérieuse.
Très sérieuse, et dont la famille mystérieuse et charismatique plane tout le long du roman. Donc, avant qu'on revienne sur ce personnage, je voulais que vous nous parliez un petit peu de ce que compte entreprendre César, puisque quand on est dans la douleur, j'ai l'impression qu'on revient presque à des superstitions enfantines. C'est-à-dire qu'il va retrouver cette statuette que sa femme avait choisie, qui est brisée. Et je trouvais que la notion de symbole était très, très intéressante.
Oui, quand on est dans la douleur ou quand on est même dans le bonheur, en fait, ce qui est très marquant. Et d'ailleurs, quand on se souvient, je me suis toujours amusé quand deux personnes, souvent à la fin d'un dîner avec des amis, quand les gens ont un peu bu, leur faire parler de leur histoire d'amour, de comment ils se sont rencontrés. C'est jamais la même version. C'est toujours... Et en fait, les gens voient des coïncidences. Et tant mieux. Il y a plein de coïncidences dans la vie. Et heureusement, plein de coïncidences heureuses. Et c'est vrai que Nana, c'est ça. Au départ, on peut se dire, c'est quand même étrange... que cette femme sonne, parce qu'en plus elle sonne de façon obstinée à sa porte, au moment même où il est en train de glisser, se présentant. Alors il ouvre, pourquoi il ouvre? Parce qu'il a peur qu'on lui vole aussi ce moment-là, donc il a envie d'ouvrir pour voir ce que c'est, et puis refermer la porte et revenir à ce qu'il est en train de faire. Simplement, le fait d'ouvrir la porte va faire entrer la vie dans son univers, justement, dans son univers de désolation, la vie va revenir. Et c'est vrai qu'au fond... Dans les histoires de renaissance ou de nouveaux départs dans la vie, il y a souvent plein de coïncidences, plein de signes. Et je pense que, en tout cas, c'est ce que font les personnages. Et c'est aussi l'une des leçons de croire au merveilleux. Et peut-être que je le pense moi aussi, certainement. En fait, je le pense, mais que les signes, il faut savoir les décrypter. C'est pas des revenants, c'est pas des fantômes, mais il y a plein de choses qui nous alertent. L'idée, puisque je parlais d'un héros qui va être sauvé par quelqu'un et ramené du côté de la vie, il fallait qu'il y ait presque comme une intervention c'est-à-dire surnaturelle, mais quelque chose d'accidentel. On a parlé des accidents pour Paz, mais un accident positif, un accident merveilleux qui le sauve. Et c'est vrai que quand elle lui dit qu'elle est sa voisine, alors que sa voisine a 80 ans, qu'il la connaît, que c'est pas du tout le même ni gabarit, ni le même âge, et qu'elle s'invite dans cet appartement, c'est un peu le signe du destin aussi. C'est vrai que le destin est là, mais le destin dépend d'une volonté. S'il ouvre pas, s'il reste dans son brouillard, rien ne se passe. S'il n'écoute pas Nana, s'il ne se prend pas en main, rien ne se passe. Et le symbole dont vous parlez, c'est très important, parce que il y avait, en fait, ça c'est quand j'étais petit, et que ce roman est aussi une façon de payer mes dettes envers un certain nombre de professeurs et de ces gens qui, quand j'avais 12 ans en Normandie, m'ont ouvert les clés de ce monde méditerranéen. En fait, elle m'avait appris, cette femme qui était professeure de grec, l'étymologie. J'adore l'étymologie, parce que c'est le sens secret des mots.
Parce qu'une importance du langage dans ce roman qui est assez...
Ça nous ouvre des significations formidables, et donc des imaginaires fous. Et symbole, symbolon, qui contient l'idée de rassembler deux morceaux, en fait, le symbole, c'était un morceau d'argile qui était coupé en deux quand on signait ou quand on nouait un contrat avec quelqu'un dans l'Antiquité, et en fait ça se transmettait de génération en génération, et ça tenait, ça faisait foi, en fait. C'était pas une signature sur un papier, c'était ça. Et cette idée que quelque chose soit rassemblé pour que le sens puisse éclore me plaît beaucoup. Et c'est vrai, dans l'irrationnel de ce début, dans le fait de se supprimer alors que cet enfant est là. Il y a la même chose avec cette statuette dont vous parliez. C'est-à-dire que ça m'a amusé de reprendre un petit morceau de plongée, le petit morceau de vraiment où je mentionnais la côte amalfitaine, mais sur deux lignes, et en fait d'expliciter totalement et de donner à voir ce petit morceau de la vie de Paz et de César. C'est pour ça que quand on dit suite, En fait, moi, j'aime assez l'idée que les romans soient comme un peu des pays sur une sorte de grande map monde ou comme différents nuages qui peuvent communiquer. Et on peut lire Croire au merveilleux seul. Et si on veut en savoir plus sur Paz,
c'était même plus intéressant ayant lu celui-ci avant Plongée. J'ai trouvé ça plus intriguant dans le sens où c'est comme une vidéo où on n'a pas les questions, on n'a que les réponses. Il y a plein de questions qui viennent, qui sont
effort.
Comment ils se sont rencontrés, d'où vient leur amour. Et une fois qu'on lit Plongée, c'est intéressant de les découvrir dans ce sens-là, en tout cas.
Oui, petit côté diptyque.
Oui.
Mais sur le symbole, cette statue, c'est vrai qu'il s'en veut, en fait, César, au départ. Non seulement il n'a pas fait son deuil, mais il s'en veut. Il culpabilise énormément parce que il y avait toutes ces histoires. Est-ce que lui a failli et c'est pour ça qu'elle est partie? Est-ce qu'il a fait une erreur? Et puis il y a cette statue, c'est vrai qu'il comptait beaucoup. Alors il m'est arrivé, moi, des coïncidences avec, j'en parlerai tout à l'heure, sur les signes de la vie. Mais il y a cette statue qu'ils avaient achetée ensemble, qui représentait beaucoup pour Paz. Et comme souvent dans les couples ou dans les histoires, bon, on oublie, elle lui demande de faire ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire insister pour faire réparer cette statue qui comptait beaucoup pour elle. Il a oublié et en fait, Paz est morte, quoi.
Oui, puis elle, il voyait un mauvais présage.
Exactement, tout de suite. Il y a la superstition qui est là, il y a le mauvais œil. Et du coup, là aussi, il se dit, au fond, et c'est un être qui est en souffrance au départ. Donc, il prend toute la souffrance, qui prend toute la responsabilité. C'est pour ça qu'il lui fallait cette réponse, pour qu'il puisse vraiment cette grande quête que va l'aider à faire Nana, à travers son enfance à lui, sa propre enfance, pour justement avoir cette réponse. Et cette statue, bah oui, j'ai aimé. C'est vrai, montrer ce personnage qui de façon très naïve, mais très romanesque aussi, très absurde et en même temps très sensé quand on est déboussolé totalement, en se disant si peut-être que j'apaiserai quelque chose dans un ordre du monde qui a été perturbé, il y tenait beaucoup, cet objet-là, du coup, le rattache à elle. Et c'est vrai que souvent, quand on perd quelqu'un qu'on a aimé, ou même quand une histoire d'amour est terminée, les objets nous rattachent et un objet fait venir une foule de souvenirs, ce qui met dans une mélancolie, c'est soit la douleur au départ et ensuite une sorte de mélancolie, mais très riche. Je ne vais pas dire une mélancolie agréable, mais quelque chose qui nous porte. Parce que c'est aussi un livre sur le rapport que les vivants entretiennent avec les morts qu'ils ont aimés et qui ça peut être vu comme un poids au début du livre. Et puis c'est vu progressivement et c'est tout le chemin du livre où Paz va de plus en plus là. Je ne vais pas dévoiler la fin, mais voilà, elle sera là, elle est là, et tout devient apaisé, et tous les souvenirs ne convoquent plus que du bon, que des bonnes choses qui nous agrandissent. Et je crois beaucoup à ça aussi, c'est-à-dire que sans être croyant ou quoi que ce soit, après, chacun évidemment est libre, mais de croire à ça, que les gens qu'on a aimés, que nos parents, nos grands-parents... Mais ça peut être aussi, c'est pas forcément dans une histoire d'amour. Évidemment, c'est encore plus fort dans une histoire d'amour. Mais que tous ces gens-là qui nous ont nourris, qui nous ont pas... Dès qu'on reconvoque les souvenirs, on s'agrandit, on se rend plus fort. Et donc il y a ça, cette naïveté folle d'attendre une réponse d'un objet. Mais au fond, est-ce qu'on n'est pas comme ça quand on est en détresse, de vouloir croire à des signes? C'est sa façon, à lui, de convoquer les dieux. Mais il se trouve que peut-être... vont-ils répondre, voilà.
Donc, présence de signes, de symboles, et un attrait pour la langue, pour les langues, puisque ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'on a à la fois la présence du grec, de l'italien, de l'espagnol, et du latin aussi. L'espagnol, donc, c'est la langue de Paz. C'est la langue qui continue à vivre dans la bouche de leur petit garçon, qui fait en sorte qu'elle soit toujours vivante aussi.
Oui, et lui essaie de lui parler en espagnol pour pas qu'il perde la langue de sa mère. Ouais.
L'italien, c'est leur souvenir aussi, leurs beaux moments vécus sur la côte amalfitaine. Et je me posais la question par rapport au grec ancien et au latin. Est-ce que c'était pour vous une façon en fait de ressusciter entre guillemets ces langues qu'on qualifie de mortes?
Bah oui, c'est ça. En fait, tout le monde ressuscite en fait dans Croire au merveilleux. Bah oui, j'étais moi très triste l'année dernière quand c'était le côté. C'est pour ça que je dédie ce livre. Enfin, je remercie à la fin l'éducation nationale de mon enfance, qui permettait que dans tous les collèges de la République, on puisse faire du du latin ou du grec, qu'on soit riche ou pauvre, provincial ou parisien, de la campagne ou des villes. Tout le monde avait le droit de s'initier à ce monde absolument fabuleux qui, moi, a modelé mon imaginaire. Et je trouve ça très, très beau. Et je voulais, c'est vrai que j'ai dit à Gallimard, on va mettre du grec ancien. J'ai envie qu'il y ait quelques... Alors, je traduis. Hein. Il ne s'agit pas de... Le rapport que j'ai à la culture, c'est jamais de... je pense qu'on peut parler de tout, y compris même de choses compliquées, à condition de vouloir partager et expliquer. C'est-à-dire que pour moi, mettre du grec, là, c'est vraiment un partage. C'est vraiment une offrande, j'ai envie de faire partager ça. Je trouve que ces caractères... Et si on n'a pas fait de grec, ils sont traduits, César explique...
Et puis c'est toujours justifié, voilà. Enfin, je veux dire...
C'est pas... Mais je trouvais, c'est comme les calligrammes. Alors là, c'est du français. J'aime jouer avec on parlait de signes tout à l'heure. Là, c'est le signe des lettres. Ces inscriptions, en fait, dans la page blanche, ces inscriptions noires, que ce soit du grec, du latin, il y a un côté magique, en fait. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petit garçon, déchiffrer ces caractères grecs, il n'y avait aucun grec dans ma famille. Enfin, j'avais aucune parenté avec la langue grecque. Je crois que j'étais le premier de ma famille à en faire. Mais dès que je déchiffrais ça, j'arrivais dans cet autre monde méditerranéen. Et au fond, le latin, le grec, l'espagnol, l'italien, c'est un hommage à cette Méditerranée qui est vraiment un millefeuille de mythes, de paysages, de civilisations, de pierres qui se sont chevauchées, mélangées, interfécondées et qui ont quand même forgé ce territoire absolument mythique où cohabitent Ulysse, les invasions barbares, les sirènes, les proverbes napolitains, et c'est tout ça, et c'est très très riche. Et ça, il se trouve que c'est le territoire amoureux de Paz et César. Donc j'aimais bien aussi l'idée de revenir, que le personnage réarpente espèce de territoire un peu sacré de leur amour, leur carte de tendre à eux, et qu'il aille réveiller les souvenirs. J'aime bien cette idée-là. Est-ce qu'on doit aller dans les territoires où on a aimé? Est-ce que c'est bien d'y retourner, ou est-ce que c'est provoquer la colère des dieux? J'aime penser que quand on s'arme de courage, et c'est encore une fois quand on décide de croire au merveilleux ou de voir le merveilleux c'est l'enfance, c'est la beauté des choses, et pour moi la beauté fait sens. C'est pas uniquement un spectacle, c'est quelque chose qui nourrit, qui rend plus fort, et qui rend plus fort dans cette époque, aujourd'hui, comme la culture rend plus fort, je pense, vraiment, les cultures, et la Méditerranée, c'est ça. Et le symbole, au fond, on peut lire le livre de... Évidemment, j'aime bien que le lecteur fasse aussi son chemin, et je vais pas, moi, plaquer mes interprétations sur ce que j'ai écrit, mais l'idée de symbole, de réunion, d'harmonie, guide totalement le livre. J'ai envie qu'on sorte de là, douché, mais lavé et plein à la fois, nourri, et vraiment, alors c'est les comparaisons qui me viennent, et c'est souvent comme ça d'ailleurs que j'ai écrit le livre, pas nu, hein, mais sous le soleil d'Italie.
Oui, ça se ressent d'ailleurs.
Ou le matin à l'aube, quand le soleil se lève, le spectacle du monde qui se lève, parce que j'écris très très tôt le matin, et l'été, c'est toute la journée, mais dans cette espèce d'apaisement et de profusion d'essence. C'est pour ça que le vin, les citrons, les statues, tout ça, en fait, la culture va avec l'agriculture aussi. C'est les plaisirs de la terre, de l'eau, vraiment d'essayer de presque de refabriquer un cosmos, c'est-à-dire un ordre du monde, mais pas un ordre militaire, un ordre du monde où il y a aussi, où les citronniers poussent comme ils veulent, la végétation, les vagues font ce qu'elles veulent aussi, et l'homme trouve sa place, l'homme et la femme, et leur enfant, et les amours, et les amis, où tout ça prend son sens, quoi, de façon très païenne. Il y avait, bon, puis je vais vous laisser parler, parce que je suis très bavard, mais l'idée aussi, puisque vous en parliez tout à l'heure des attentats, etc., c'est que, à la fois, je voulais répondre à cette éducation nationale qui avait supprimé, justement, cet accès aux langues, qui était un formidable déclencheur d'imaginaire, de rigueur et d'ouverture au monde, y compris, d'ailleurs, dans les collèges de banlieue, etc. C'était génial, parce que ça redonnait une autre Méditerranée, une autre idée aussi. Et à la fois, une réponse par rapport à la crise, disons, terroriste qu'on vivait et qu'on vivra encore pendant des années. C'est-à-dire que la religion qui s'énonce aujourd'hui en termes d'interdit, chez les Grecs, le rapport au Dieu, le rapport...
C'est le polythéisme, donc...
C'est beaucoup plus simple.
Oui, bien sûr.
C'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de diktat. D'ailleurs, les dieux font un peu n'importe quoi. Sont des hommes déguisés en dieux, qui sont jaloux, qui sont rusés, qui sont parfois qui vous viennent en aide.
Au nom de la religion,
exactement.
En plus.
On n'a jamais... Alors, la civilisation grecque n'est pas du tout parfaite. Il y avait des esclaves, il y aurait beaucoup à dire par exemple, le rôle de la femme aussi. Mais c'est beaucoup plus simple du point de vue de la religion. On n'a jamais demandé à ce que le sang coule au nom de la religion. Et ça, c'est une leçon aussi à méditer aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'était bien d'enseigner ça aussi. Ça montre qu'il y a d'autres rapports à la religion que ceux qui sont énoncés maintenant. Et moi, j'aimais que les dieux aussi entrent au milieu de cette nature, au milieu de ces amours, au milieu de ces êtres humains, comme dans les contes aussi. Cet aspect de conte, il était là. C'est vraiment une trajectoire de l'ombre à la lumière, de la non-paternité à la vraie paternité. Parce que, très important aussi pour moi, le message suivant, on n'est pas père quand on... seulement biologiquement, en fait, on est père quand on veut devenir père, et c'est tout un travail. Le reste, le début n'est que de l'organique, et on s'en fiche. C'est justement par la transmission, par la transmission de l'amour, par la transmission d'histoire, d'un savoir, d'un certain nombre de valeurs, de repères dans ce cosmos. Et c'est vrai que transmettre un... Et peut-être que César se faisait une trop haute idée de ça. Et c'est aussi peut-être pour ça que... Parce que la culture était présente dans Plongée aussi. Peut-être qu'à cause de ces modèles, ça, il se faisait une trop haute idée du rôle de père et qu'il ne s'en sentait pas capable au départ. Mais voilà, il a réussi avec un petit coup de main.
Donc l'importance de la langue aussi, il y avait un côté très amusant parce que vous jouez avec elle. On retrouve par exemple le verbe se selfiser, hein, action de se prendre...
Oui.
Non, mais ça m'a beaucoup amusé, comme quand vous parlez des fesses chair de poulesque de Paz.
Ah là, oui. Oui, ça, c'est très important.
Est-ce que c'est parce que vous considérez que le langage n'est pas quelque chose de figé, en fait, tout simplement?
Non, j'aime bien, parce qu'en fait, ça veut dire, quand je mets chair de poulesque, c'est qu'en fait, j'écris beaucoup par image. Et je prends beaucoup d'images, j'écris. Et puis, écrire pour moi, dans l'espèce de vie parfois vertigineuse, c'est reconvoquer justement l'essentiel de la vie. J'ai l'impression que chacun des romans sont des petites briques de vie. Alors, c'est pas que ça enferme des choses vécues, parce que... Enfin, c'est fermé, mais c'est entrouvert, un livre. C'est toujours... c'est pas quelque chose de fermé, mais ça a besoin d'être ouvert pour justement que le lecteur entre dedans. Et chair de poulesque, c'est parce que je vois que quand on sort d'une baignade, la
un
peau...
Peu fraîche.
Un peu fraîche. Le corps va se réchauffer, mais au départ, voilà, la peau est un peu, comme la chair. Et je trouve ça assez beau, surtout quand ça concerne Paz et César, parce qu'évidemment, cet état, c'est souvent le prélude d'un état d'amoureux et amoureux. On va se réchauffer ensuite, mais il y a ce côté, c'est que je vois Paz, je la vois sortir, et avec la peau légèrement, c'est pas la chair de poule totalement, elle est pas en train de grelotter. Et je vois cette peau qui sort de l'eau.
Ah non, mais l'image nous vient.
J'aime bien ça. Après, selfiser, c'est un mot ridicule et ça convient très bien à ce que décrit ce mot. Mais j'aime bien, oui, j'aime bien m'amuser. Comme je pense qu'il faut prendre des livres. J'aime que ça soit évocateur. J'aime que les phrases soient riches d'éléments visuels, d'éléments olfactifs. J'aime qu'on voit, en fait. J'ai envie que le lecteur y soit. Quand César se baigne, quand César va danser ou se fait porter par l'espèce de scooter presque mythologique de Nana, quand il est là, quand il regarde l'aube se lever, quand il regarde son fils, quand il appelle ses parents, j'ai envie qu'on y soit.
Alors, c'est tout à fait réussi, hein, puisque ce roman fait clairement travailler nos cinq sens.
Tant mieux.
Enfin, mais, faut le dire, ça, on y reviendra, mais vraiment. Je voulais revenir sur l'étymologie, Parce que c'est, oui. Je trouvais ça très intéressant aussi. Par exemple, j'ai appris que myosotis voulait dire oreille de souris, ce qui est déjà un très joli mot.
Ça va vous servir dans la vie de façon.
Mais oui, quand même, bien sûr. Mais c'est comme le latin, hein, on nous dit et tout le temps que ça ne nous servira pas et finalement, ça nous sert beaucoup. Ouais. C'est d'où vous est venu un petit peu cet attrait pour le sens des mots, l'origine des mots.
Je trouve que les mots sont. C'est très banal, mais je suis un gourmand de mots. Je trouve qu'ils sont. C'est pareil, encore une fois, ces mots-là, souvent, ont une longue, longue, longue histoire, que ça forge des images quand on les décompose. Que psychiatres veulent dire médecin de l'âme. Je trouve ça absolument génial. Enfin, on voit pas la vie de la même façon. Et encore une fois, moi, je le dois grâce à des maîtres que j'ai eus qui m'ont transmis ça. J'avais un petit livre quand j'étais enfant qui s'appelait Trésor des racines grecques. Et il y avait l'équivalent pour les. Alors, je suis plus grec que latin parce que voilà, j'aime bien ces. Il y a peut-être un exotisme encore plus fort du côté de l'alphabet grec, mais je trouve que ça enrichit, que ça fait voir la vie. Je suis très triste aussi. C'est pour ça que j'ai été prof longtemps, mais quand on n'a pas de vocabulaire, on a du mal aussi à transmettre justement la richesse de la vie. Il y a une phrase qui est très importante pour moi, c'est quand César se plaint d'un monde où la nuance est morte. Moi, j'aime ce qui est nuancé. D'ailleurs, vous avez remarqué, je n'arrive pas à faire une phrase courte. Parce qu'en fait, chaque mot m'emmène vers d'autres choses, comme souvent. Et c'est ça. Enfin, évidemment, quand on connaît l'étymologie, quand on la cherche. Mais là, le passage que vous citiez, c'est au début sur myosotis, où il dit en fait, on s'en fout de tout ça. Myosotis, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on sourit. Myo, c'est le muscle.
Oui, mais ça peut dire aussi.
Voilà. Il y a une double étymologie, c'est souris et le muscle, mais en fait, dans souris d'agneau. Enfin, en fait, vous voyez.
Non, mais c'est
ridicule,
juste que myosotis, quand
dans
on voit la fleur.
Souris d'agneau, c'est le même mot, en fait, que ça, myosotis et souris d'agneau, il y a des points
non,
de.
Non, mais l'image était belle.
Voilà.
Parce voilà. qu'un myosotis, ça a vraiment la
c'est
forme
vrai.
D'une oreille de souris.
C'est vrai.
Donc, je trouvais ça amusant.
Puis les noms de fleurs, les noms de fleurs sont d'une poésie dingue. Donc, c'est vrai, Aphrodite. Qui est le mot écume dans Aphrodite et qui du coup convoque une image. C'est quand même, les images sont quand même, pardon, je veux pas, enfin on est entre adultes, mais pourquoi j'aime aussi cette mythologie, pourquoi ça me nourrit, pourquoi je pense aux sirènes tout le temps, pourquoi j'adorais qu'on me raconte ça enfant et pourquoi César du coup raconte ça aussi à son fils, c'est que ces histoires de création du monde chez les Grecs où on châtre le père et en fait le sperme du père se répand dans la mer et ça va donner l'écume et Aphrodite naît de ça. Il s'en amuse, on devrait l'appeler spermadite plutôt qu'Aphrodite parce qu'Aphros c'est l'écume. Tout ça, il s'amuse de ça et ça les enchante. Il y a un côté enfantin qui plaît beaucoup. On peut passer sa vie à décrypter le sens des mots parce que ça ouvre des histoires à chaque fois, des tiroirs sans fin. Et j'aime qu'il y ait ça, un assemblage. Les mots sont, c'est bête de dire ça, mais c'est vrai que les mots sont beaux et riches de sens. Et j'aimais beaucoup, par exemple, quand j'avais 18 ans, j'utilisais toujours le mot mellifluent, mais qui coule comme le miel. D'ailleurs, c'est Apollinaire qu'on parlait beaucoup qui dit ça. Et pourquoi à 18 ans? Parce que voilà, je découvrais 17 ou 18 ans et j'aimais bien ce côté. Voilà, tout ce qui est doré, liquide, doux, fluide, chaud, qui met presque. L'étymologie met ce liquide chaud et doux entre les mots, entre les images. C'est aussi ça la vie, c'est aussi ce plaisir de. On convoque des images avec des mots. J'ai aussi la chance, petit. D'avoir deux rencontres qu'ont changé ma vie, c'est Jacques Lacarrière et Jacqueline de Romilly qui étaient venus dans notre petit collège à côté du Havre, c'était même pas au Havre. Et c'est vrai que c'est cet humour, ça donnait ça à Jacqueline de Romilly, un humour et en même temps une vision très très acérée avec son œil bleu, mais une énorme ouverture d'esprit et vraiment du plaisir, quoi. Et ça c'est important, c'est-à-dire que pour moi l'étymologie là, le jeu avec les mots, c'est du plaisir. Tout le monde peut comprendre et se dire, ben voilà, moi myosotis, bon là je le savais puisque je l'ai, mais j'ai découvert par exemple une chose absolument dingue qui me trouble et qui me dit que les Grecs étaient vraiment, vraiment incroyables, c'est que j'en parle un peu dans Plongée. À un moment, il y a une conversation, ils sont dans une très belle... Paz a été convié dans une très très belle maison par quelqu'un qui organise un festival d'art contemporain sur l'île Stromboli, donc là où il y a le volcan. Et ils se mettent à parler des sirènes, parce que l'île, et c'est vrai, hein, cette île existe, en face de Positano, des îles qu'on appelait avant les îles Sirénuses, parce qu'on pense que c'est là que quand Ulysse, donc l'épisode des sirènes dans Ulysse, que c'est là que vivaient les sirènes. Et en fait, de là, parce qu'évidemment, j'ai recherché, j'ai relu des choses, et c'est assez génial, parce que visiblement, à l'origine de ces... Pourquoi ça s'appelle Sirénus ? C'est qu'il y avait trois sœurs qui vivaient là, et c'est, beaucoup de marins passaient ici, et on s'est demandé si c'était pas aussi un bordel, et du coup, avec ces marins qui n'avaient pas connu de femmes depuis très très longtemps, et qui les ont peut-être appelées sirènes à cause de ça. Mais l'autre chose que je trouve encore plus intéressante, c'est que quand Ulysse est attaché à son mât, que ces marins ont les oreilles bouchées, vous vous souvenez, on parle du chant des sirènes tout le temps. Mais en fait, c'est pas uniquement un chant. En fait, dans Homère, il y a une ligne, et il n'explique pas plus. Les sirènes disent « Nous savons tout ce qui s'est passé et tout ce qui l'adviendra sur la terre féconde. » Et ça veut dire qu'en fait, ce que transmettent à Ulysse les sirènes, et c'est pour ça que c'est peut-être dangereux, c'est le savoir de tout ce qui va se passer, c'est le don de l'avenir. Et Ulysse, en fait, on ne nous le dira plus, mais Ulysse, il se trouve qu'il a eu accès à la connaissance infinie grâce à ces sirènes. On n'en sait rien d'autre, mais on sait, puisqu'il a écouté le chant des sirènes. Et Ulysse, il arrive à Ithaque, ensuite, il retrouve son fils. Et on peut se demander si Ulysse n'a pas initié aussi Télémaque à ce savoir absolu. Donc, cette idée de savoir, vous voyez, ce savoir qui se transmet par un chant, donc par la beauté, tout ça, je trouve ça, mais d'une... Enfin, ça donne envie de lire, de vivre, de voyager. C'est pour ça que la lecture est si... et que l'ouverture à ces autres cultures, parce que c'est une partie de notre culture, mais c'est très très étranger aussi, la culture grecque, elle est... Mais s'ouvrir à ça, ça permet de donner tellement tellement de recul, tellement peut-être d'avance aussi sur ce qui va se passer nous-mêmes, parce que ces gens-là ont réfléchi à la politique, ont réfléchi à ce que c'est qu'une crise. Je vais pas faire un exposé là-dessus, mais on fait plein de découvertes sur le monde grec aujourd'hui, qui nous montrent par exemple qu'ils avaient inventé l'intelligence collective, ce qu'on appelle aujourd'hui, qui sont vraiment dans le management contemporain, c'est-à-dire d'arrêter, je veux dire, aussi la hiérarchie insupportable, mais de travailler l'autonomie de chacun pour le... Il y avait à peu près il y avait plusieurs centaines de cités grecques sur tout le bassin méditerranéen, et visiblement, il y a un livre d'un chercheur américain qui vient de sortir, qui a étudié économiquement pourquoi ils ont eu cette réussite flamboyante économique pendant des siècles. On n'a pas retrouvé ça avant la Renaissance. Et en plus, c'était des gens pour qui la culture, le débat d'idées, était vraiment au centre, et la beauté. Et bien, économiquement aussi, ils étaient extrêmement forts, parce que toutes ces cités travaillaient en commun dans une sorte d'autonomie, et ça a permis une grande prospérité. Donc ce monde méditerranéen, je voulais aussi lui donner hommage. Mais là, on est très très loin de lui rendre hommage. Mais on est très très loin de César et Nana, et du petit garçon. Et de la famille, oui, parce que vous m'avez parlé de la famille tout à l'heure. C'est vrai, la famille de Nana. Oui. Ouais, c'est important.
Mais pour parce qu'on doit conclure avant de passer
déjà
ça passe très vite avant de passer la parole au public. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de parler de l'importance de l'eau aussi dans ce moment, et j'ai trouvé vraiment un superbe passage. J'aimerais juste le lire.
Ah oui, très bien.
Parce que l'eau, c'est quand même l'élément par lequel il perd sa femme, et en même temps, c'est le symbole ultime de la vie.
Et c'est l'eau que cherchait Paz aussi. Elle cherchait le mystère de l'eau.
C'est au retour que nous avions découvert la grotte, une fente horizontale dans la falaise de calcaire, une mâchoire buvant la mer, difficile à voir, car la paroi, tous les 15 mètres, était percée d'orifices par où l'écume se faufilait. Mais cette ouverture-là était plus large et précédée par une petite cascade. Elle donnait à boire aux quelques plantes qui s'accrochaient à la roche et rafraîchissaient la mer de quelques degrés. Nous avions jeté l'ancre et prenions un dernier bain avant de rentrer à la pension, lorsque nous avions senti la différence de température. La mâchoire, alors, avait attiré notre regard. Nous avions nagé jusqu'à elle, et après une profonde inspiration, nous étions glissés sous l'eau avant de reprendre notre souffle de l'autre côté, dans une piscine naturelle bordée par un lit de galets gris, gris clair, éclaboussé d'une lumière qui semblait provenir d'un soleil interne à la grotte. L'eau sous toutes ses formes, ouais. En fait. Et donc voilà, c'est un très très beau roman, et notamment sur tous ses sens, parce qu'on a les papilles, on est moi, parce que voilà, il est plein de vie aussi, et ce qui plonge César dans un profond désarroi, ouais. Parce que les gens continuent à faire l'amour, les corps à s'échauffer, et
pas lui.
Mais bon, il va retrouver en tout cas un apaisement, et c'est vraiment le sentiment sur lequel le lecteur termine.
Merci. Je peux lire un petit passage ?
Ah, bien sûr.
Ça ne vous embête pas ?
Pas du tout.
Il y a un passage que je... Il faut que je le retrouve. C'est le moment où donc, il a enfin accepté César. Il s'est décidé à emmener son petit garçon en vacances, en fait, avec lui. Donc, il y a des amis qui ne sont pas loin. Ils ont loué une petite bergerie, en fait, une ancienne bergerie. Ça se passe en Espagne, parce qu'il tient à retourner en Espagne, qui était le pays de sa maman. Et en fait, les enfants, comme souvent, sont ensemble, dans une pièce, pendant que les adultes dînent. Voilà. Et César est le seul non accompagné, parce qu'il n'a pas envie d'ailleurs d'être accompagné. Tout le monde est en couple, enfin pas tout le monde, mais justement, il n'a pas envie non plus qu'on le recase. Et là, il y a un petit drame chez les enfants. Tout va bien. Enfin, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'une cohorte d'enfants se déverse hors de la maison pour nous rejoindre sur la terrasse. « Papa, papa !» crie une petite fille, l'aînée d'Arthur, qui se poste bien droite devant lui, dans une attitude très solennelle. Les autres enfants l'imitent. Le moment paraît grave. « Il a dit que sa mère était au fond des océans !» Le silence retentit comme si la lune était tombée sur la table. « Je cherche mon fils des yeux. Il n'est pas là. Il a dû rester à l'intérieur. »« C'est pas grave !» dit Arthur, qui veut écourter la parenthèse. « Allez regarder Nemo et soyez sage. » Il s'aperçoit de sa connerie. « Nemo ? L'histoire d'un poisson clown qui a perdu sa mère. J'ai presque envie de rire. Ou plutôt demander à Angela de vous mettre un autre film. « Mais papa, pourquoi il dit des bêtises ?» insiste la petite fille. Mon sang ne fait qu'un tour. J'appelle mon fils qui arrive jusqu'à nous, tête baissée. « Qu'est-ce que tu as dit ?» je lui demande. « C'est pas très grave, » dit Arthur. J'insiste. « Tu peux répéter ce que tu leur as dit ?» Il ne relève pas la tête. La petite fille ne se fait pas prier et lance à nouveau en me regardant, très sérieuse. « Il a dit que sa mère était au fond des océans. » J'attrape mon fils et le prends dans mes bras. Je plonge ma main dans ses magnifiques cheveux. « Eh bien, c'est vrai, figure-toi. » Je réponds à la petite fille. « Sa mère est au fond des océans. » Il ne dit pas de bêtises. Mon fils relève la tête. Il est surpris, reconnaissant. Il n'y a plus un bruit autour de la table. Personne ne sait que dire. Les adultes, concentrés, attendent, un peu lâchement, que la gamine enchaîne. « C'est une sirène ? » demande-t-elle. « Une sorte de sirène, oui. Sans queue de poisson, mais encore plus belle. »« Et c'était ton amoureuse ?»« Oui, c'était mon amoureuse. Et c'était sa maman.
Bah, » Merci beaucoup.
Voilà. Merci à vous. Hein. Ouais.